Marguerite Audoux Valserine Chapitre 1 Avant même que le jour ne fût levé, Valserine ouvrit toute grande la fenêtre, comme les matins où elle attendait le retour de son père. Elle savait bien pourtant qu'il ne viendrait pas ce matin-là, puisque les gendarmes l'avaient emmené en prison la veille. Mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder vers le sentier par où il arrivait toujours, un peu courbé, lorsqu'il rapportait des marchandises passées en contrebande. Elle ne pouvait croire encore à son malheur. Cela s'était fait si vite. Alors que, très éloignée de sa maison, elle surveillait au bas d'une pente un passage qui devait mettre pour un instant son père à découvert, un douanier qui la guettait lui avait enlevé brusquement le mouchoir qu'elle tenait à la main pour un signal. Dans sa surprise, elle n'avait pu retenir un cri aigu. Le contrebandier, croyant sa fille en danger, était sorti d'on ne sait où et s'était lancé sur la pente tout enchevêtrée des boulis de pierre et d'arbres coupés. Un faux pas l'avait projeté la tête contre un arbre et il était resté là, étendu, toute sa contrebande éparse autour de lui. Valserine avait tant pleuré depuis ce moment qu'elle ne pouvait plus retenir maintenant les gros soupirs qui continuaient à lui emplir la poitrine et l'empêcher de respirer à l'aise. Elle ne resta pas longtemps à la fenêtre. Le grand silence du dehors l'effrayait. Auprès comme au loin, rien ne bougeait, les arbres étaient aussi immobiles que les pierres, et la lune elle-même, terne et comme endormie dans le ciel, semblait arrêtée pour toujours au-dessus de la montagne. Dans la maison, il y avait le même silence et la même obscurité, mais Valserine ne s'en effrayait pas. Elle savait que les meubles et les objets qui l'entouraient étaient des amis, qu'elle retrouverait chacun à sa place avec la lumière du jour. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était la crainte que son père ne restât longtemps en prison, car alors il lui faudrait vivre seul à la maison, tout comme la mère Marienne qui habitait plus bas et dont le fils, contrebandier aussi, s'était laissé prendre le mois dernier. Un autre souci vint la tourmenter. Il lui faudrait, comme à l'ordinaire, partir chaque matin pour l'école qui se trouvait assez loin et d'où elle ne revenait que le soir. Qui donc, pendant l'absence de son père, allait prendre soin des jolis poussins éclos nouvellement? Qui donc mènerait brouter la chèvre noire par les sentiers escarpés de la montagne? Qui donc encore rapporterait de la forêt les fagots de branches mortes qui font un feu si joyeux et les pesantes souches de sapin qui brûlent sans flamme et laissent un si beau brasier dans la grande cheminée. Sa pensée retourna vers la mère Marienne. Elle seule, si elle le voulait, pourrait s'occuper de ces choses, car, à part les bûcherons logeant au hasard des huttes, il n'y avait personne dans le voisinage. Mais la mère Marienne, avec sa voix forte et ses yeux si noirs, faisait un peu peur à Valserine. Son père lui avait pourtant assuré qu'elle n'était pas méchante et qu'elle leur portait à tous deux une réelle affection. Mais une fois, Valserine l'avait vu jeter des pierres au douanier tandis qu'il dévalait un chemin creux. Elle-même n'osait plus dévaler ce chemin, persuadée qu'elle pouvait aussi recevoir des pierres. Cela ne l'empêchait pas, aujourd'hui, de prendre la vieille femme en pitié. Comment ferait-elle pour vendre ses œufs et ses fromages? Elle qui avait tout juste la force de conduire au champ sa vache et ses chèvres. Depuis que son fils était en prison, c'était le père de Valserine qui vendait les produits à Mijoux, où il avait souvent affaire pour lui-même. Et voilà que les deux hommes manquaient à la fois. Tandis que Valserine réfléchissait à tout cela, le jour s'était levé. Elle ne s'en aperçut que lorsqu'il se fut étendu, large et plein, entrant en maître dans la maison pour y éclairer toute chose à sa fantaisie. Un air vif, venant des placiers, entrait aussi à pleine fenêtre, amenant avec lui l'odeur forte des sapins dans l'entour, en même temps que le parfum léger de l'aubépine qui fleurissait les haies du chemin. Déjà tout vivait et se réjouissait au dehors. De grands oiseaux planaient au-dessus de la vallée. Un bruissement clair venait de la forêt voisine, et dans le jardin qui faisait face, tous les arbres fruitiers étalaient leurs jeunes pousses au soleil. Brusquement, un bruit de pas attira l'attention de la fillette. Quelqu'un, certainement, montait le rude sentier venant de la route. Elle écouta, et quand elle se fut assurée que le bruit se rapprochait, une nouvelle crainte lui fit fermer la fenêtre et pousser le verrou de la porte. Puis elle revint à sa place pour se mettre en observation derrière la vitre. Elle vit bientôt apparaître un cheval. Il gravissait péniblement le chemin plein de cailloux, et sa bride, laissée libre sur le cou, glissait et pendait d'un seul côté. Elle vit aussi qu'un gendarme suivait le cheval. À l'encontre de la bête, il avançait sans difficulté en appuyant seulement un poing sur la hanche, et son pas bien mesuré était ferme et régulier. Valserine s'effaça pour ne pas être vue. Elle entendit le cheval s'arrêter devant la porte et elle devina que le gendarme frappait du revers de la main. Elle ne savait pas si elle devait répondre. Elle craignait de désobéir au gendarme et, en même temps, elle pensait qu'il finirait par s'en aller, croyant la maison vide. Mais le gendarme ne s'en allait pas. Il essayait d'ouvrir la porte et frappait plus fort en appelant. « Hé, petite !» Puis Valserine comprit qu'il attachait son cheval à la boucle de fer scellée dans le mur et qu'il s'éloignait. Et peu après, elle entendit sa voix s'élever derrière la maison. Il appelait fortement. « Valserine ! Hé, Valserine !» Il revint devant la maison en répétant ses appels. Mais cette fois, sa voix ne s'enfonçait plus dans le bois qui montait au plateau. Elle passait au-dessus de la combe et s'en allait heurter la haute montagne d'en face qui la renvoyait en plusieurs voix assourdies, comme si elle la cassait et en lançait les morceaux à la recherche de la petite fille. Le gendarme se lassa d'appeler. Il heurta encore une fois la porte, mais avant de s'éloigner, il vint coller son visage à la vitre en cherchant à voir dans l'intérieur de la maison. Aussitôt, Valserine s'approcha. Toutes ses craintes étaient parties. Elle venait de reconnaître un gendarme de sept moncelles, celui qui avait une petite fille très jolie, avec laquelle elle avait joué l'année d'avant à la fête du pays. Le gendarme se mit à rire en l'apercevant. Il lui fit un signe d'encouragement. « Allons, petite gnoque, ouvre la porte, je ne te veux point de mal, moi !» Valserine ouvrit la porte, toute honteuse de s'être laissée appeler si longtemps. Puis le gendarme prit une chaise pour s'asseoir et il dit à la fillette qui se tenait debout devant lui. « Voilà que ton père s'est fait prendre et les douaniers disent que tu l'aidais à passer sa contrebande. » Elle le regarda bien en face et répondit « Non !» « Pourtant, reprit le gendarme, tu faisais le guet quand les douaniers l'ont pris, et c'est parce qu'il t'a entendu crier qu'il a sauté de haut et que le pied lui a manqué. » Valserine ouvrit la bouche comme si elle allait donner une explication, puis elle la referma très vite et, après un instant de silence, elle demanda vivement « Est-ce que son front saigne toujours ?» Le gendarme regarda de côté, comme s'il était embarrassé par la question. Puis il ôta son képi, qu'il tapota du bout des doigts avant de répondre. « Ne te mets pas en peine, cela ne sera rien. Mais ton père est en prison et tu ne peux pas rester seul ici. » Et comme elle levait vers lui des yeux pleins d'inquiétude, il lui expliqua que le conducteur du courrier de Saint-Claude avait reçu l'ordre de la prendre le soir même à son retour du col de la Faucille. Elle n'aurait qu'à attendre le passage de la voiture en bas sur la route et on la conduirait dans une famille de Saint-Claude qui la mettrait en apprentissage en attendant le retour de son père. Il fallut la raisonner longtemps avant de lui faire admettre qu'elle ne pouvait rester seule dans sa maison, mais quand enfin elle eut promis de faire ce qu'on lui ordonnait, le gendarme s'en alla, assurant qu'il irait souvent à Saint-Claude porter des nouvelles du prisonnier. Derrière lui, elle pleura presque aussi fort qu'elle avait pleuré pendant la minute où son père était resté comme privé de vie, tachant de rouge le gros arbre contre lequel sa tête avait porté. Elle essayait de se représenter cette famille de Saint-Claude qui devait la recevoir, et son imagination ne lui montrait que des personnes graves et guindées et des enfants bien habillés qui n'auraient que du mépris pour elle. Et puis, elle connaissait la ville de Saint-Claude, où son père l'avait menée souvent, Et à l'idée d'aller vivre dans un endroit où il y avait tant de monde, son chagrin devenait plus vif. Elle se souvint cependant de ce que son père lui avait dit quelques mois plus tôt. « À la fin des vacances, comme tu auras juste 14 ans, je t'enverrai à la ville pour apprendre un métier. » Elle n'avait pas su choisir parmi les nombreux métiers qu'il lui avait nommés. Et il avait ajouté « Je voudrais que tu sois ouvrière diamantaire. » Et comme pour lui en donner à elle-même le désir, il avait longuement vanté ce métier où les jeunes filles et les femmes pouvaient gagner largement leur vie. Elle se souvint encore que, ce jour-là, son père avait beaucoup parlé d'avenir. L'avenir. Elle essaya d'y penser. L'avenir. Elle répéta le mot plusieurs fois, comme pour le fixer et l'avoir bien à sa portée. Mais à le répéter ainsi, le mot se brouilla dans sa tête. Et soudain, il lui parut très haut et tout semblable à ces nuages qui arrivaient en se bousculant par le col de la faucille et s'enfuyaient en s'effilochant le long des monts Jura. C'était encore en parlant d'avenir que son père l'aidait à faire ses devoirs de classe. Elle le revoyait auprès d'elle, lui désignant ses fautes sur son cahier, leurs deux têtes si rapprochées qu'elles se heurtaient parfois. Il disait en riant « Tu sais, ma fille, je ne suis pas savant du tout, mais ce que je t'apprends pourra tout de même te servir plus tard. » Aujourd'hui, comme hier, la petite table toute tachée d'encre et encombrée de livres et de cahiers occupe la meilleure place dans la pièce. Le soleil l'éclaire et pénètre en plein dans son tiroir resté ouvert. Longtemps, Valserine la regarde. Puis, brusquement, elle la repousse dans l'ombre. Elle en a fini avec la classe. À présent, l'atelier va commencer. Cette idée faisait monter en elle une colère qu'elle ne songeait pas à réprimer et qui lui faisait heurter rudement les objets, tandis qu'elle nettoyait la maison et mettait de l'ordre partout. Une tourterelle apprivoisée, qui arrivait du bois pour une caresse et une friandise, selon son habitude, lui rendit soudain toute sa douceur. Elle retint un long moment l'oiseau dans ses deux mains. Elle aurait voulu lui dire, comme à une amie, toute sa peine. Elle aurait voulu lui faire comprendre qu'elle allait s'éloigner pour longtemps. Puis, quand l'oiseau la quitta pour retourner au bois, elle sortit elle-même de la maison pour aller voir sa chèvre noire qui bêlait tristement dans sa cabane. Cependant, elle prit à peine garde à la chèvre qui tirait sur sa corde en bêlant plus fort. Elle se dirigea vers le fond de la cabane dont le mur se trouvait formé en partie par la montagne elle-même. Elle déplaça légèrement un épais fagot dressé là comme pour le faire sécher et, en se baissant un peu, elle se glissa par l'étroite ouverture qui menait à la cachette du contrebandier. C'était là que, depuis plus de 10 ans, son père cachait ses marchandises. L'endroit était peu vaste, mais, quoique dissimulé comme une caverne, il n'était pas obscur. Le jour y entrait par des fissures que formaient entre elles d'énormes pierres étagées au-dessus et posées en tous sens. Par les grandes pluies, l'eau y entrait aussi. Elle coulait en fines rigoles le long des parois et emplissait lentement les trous qu'elle rencontrait sur son passage. C'était un gros ennui pour le contrebandier qui tâchait d'y remédier en enfermant ses marchandises dans de solides boîtes de fer blanc. Depuis que Valserine connaissait le secret de la cachette, elle s'y rendait toujours avec crainte. Pendant longtemps, elle avait cru que c'était là seulement que les marchandises étaient à leur place et elle croyait encore que son père en dissimulait l'entrée par peur des mendiants qui rôdaient parfois autour de la maison et ne se gênaient pas pour emporter ce qu'ils trouvaient à leur convenance. Elle n'avait connu le danger que le soir où, elle et son père étant occupés dans la grotte, les douaniers étaient venus se mettre en embuscade sur l'amoncellement de rochers qui en formait la voûte. La nuit se faisait presque. Le contrebandier avait fini d'envelopper les petits paquets faciles à mettre dans ses poches et qui devait aller vendre le lendemain. Il se préparait à sortir lorsqu'une voix venant d'en haut avait dit « Il doit y avoir des trous profonds parmi ces pierres. » Puis il y avait eu quelques piétinements et la même voix avait repris « J'ai envie de faire partir mon revolver là-dedans pour voir ce qui en sortirait. » Aussitôt, Valserine s'était sentie attirée violemment par son père. Elle avait senti aussi qu'il était tout tremblant lorsqu'il lui avait dit à l'oreille « Les douaniers sont là !» Elle n'éprouvait aucune peur à ce moment. Elle était seulement étonnée du trouble de son père. Et comme elle allait demander une explication, il lui avait mis la main sur la bouche en lui disant encore dans l'oreille « Tais-toi !» Et brusquement, elle avait compris que son père faisait de la contrebande, tout comme le fils de la mère Marienne, qu'elle-même méprisait à l'égard d'un voleur. Et malgré l'obscurité, elle mit ses deux mains sur son visage pour cacher la grande honte qui la faisait rougir. Mais le contrebandier se pencha davantage sur elle en la serrant plus fort contre son cœur. Alors, pour le tranquilliser, elle lui passa un bras autour du cou, ainsi qu'elle le faisait souvent dans ses câlineries. Ils entendirent encore des petits coups frappés sur les pierres, puis la voix du douanier arriva près d'eux comme si elle sortait d'un porte-voix. Elle disait « Ma baguette ne touche pas le fond ». Une autre voix, paraissant plus éloignée, dit « Reste donc tranquille, tu vas faire sortir de ce trou quelques bêtes qui vont nous ennuyer cette nuit ». Malgré ces paroles, les petits coups secs continuèrent de se faire entendre. Et tout à coup, un glissement rapide fit comprendre à Valserine que le douanier avait laissé tomber sa baguette dans le trou. Après une longue attente, la fillette et son père s'étaient assis en silence sur la pierre étroite qui se trouvait auprès d'eux, et ils étaient restés là jusqu'au matin, sans oser bouger ni même se parler tout bas. Et maintenant que Valserine se retrouvait seule dans cette cachette, elle se souvenait des moindres détails de cette nuit d'angoisse. Il y avait un peu plus d'un an de cela, et depuis, elle avait posé tant de questions à son père qu'elle savait à présent beaucoup de choses. Elle savait qu'un homme peut être contrebandier sans être un voleur. Son père le lui avait affirmé dès leur sortie de la grotte, et il lui avait donné à ce sujet les explications les plus précises. Ce même jour, il lui avait appris aussi qu'il était le fils d'un gendarme et que sa famille l'avait renié parce qu'il avait épousé la fille d'un contrebandier. À entendre son père lui parler comme à une grande fille, un peu de fierté lui était venue alors, et sa tendresse pour lui en avait encore augmenté. Et voilà qu'aujourd'hui, à ressasser tous ses souvenirs, elle ressentait presque de l'orgueil en pensant aux paroles du gendarme de Sept-Moncel « Les douaniers disent que tu l'aidais à passer sa contrebande ». Tout en s'assurant que les marchandises étaient à l'abri de l'humidité, Valserine ramassa les bouts de ficelle qui traînaient à terre et les roula en pelote. Elle faisait cela sans se presser, rien que pour augmenter son travail et rester plus longtemps dans la cachette. Elle se sentait en sûreté dans ce trou et elle imaginait pouvoir y vivre des journées entières sans s'y ennuyer. Toutes les pierres sur lesquelles on pouvait s'asseoir lui rappelait une histoire, car c'était là seulement que le contrebandier parlait des ennuis qu'il rencontrait dans son métier et des façons adroites ou amusantes dont il dépistait les douaniers. C'était là encore qu'il avait raconté comment la grotte s'était formée l'année même où la fillette était venue au monde. Pendant une nuit, un violent orage avait fait tout trembler dans la montagne et sous la grêle et sous une pluie comme on n'en avait jamais vu, une masse de terre et de rochers s'était soudain détachée du haut, passant à 20 mètres de la maison pour rouler jusqu'en bas de la pente, entraînant avec elle des centaines d'arbres qui se heurtaient en un fracas terrifiant. L'étable avait été emportée avec les deux vaches et les chèvres sans que l'on eût jamais pu découvrir l'endroit où les bêtes étaient enfouies. Seul le chien n'avait pas été entraîné, mais pris sous l'éboulement et blessé à mort, ses plaintes aiguës avaient percé le silence de la vallée jusqu'au matin sans qu'il fût possible de lui porter secours. Au jour, alors que le contrebandier cherchait à le dégager, une pierre plate sur laquelle il s'appuyait bascula tout à coup et laissa voir la grotte où la bête était en train de mourir. Rien n'avait été changé dans cette grotte depuis sa découverte. La pierre plate continuait à emboucher l'ouverture. Elle basculait sans difficulté lorsqu'on s'y appuyait d'une certaine façon, et il était aussi facile de la faire basculer du dedans que du dehors. Rien ne la différenciait des autres pierres qui sortaient plus ou moins du mur de terre, mais pour plus de précaution, un fagot de bois vert restait toujours dressé devant. Et Valserine savait que le chien était enterré dans le creux même, là près de ce rocher qui avançait sa longue pointe vers l'ouverture de la cachette, comme pour en défendre l'entrée. Le temps passait. La chèvre appelait toujours d'une voix triste. Et il fallut bien aller enfin vers elle. Toute la matinée se passa pour la fillette à rôder autour de cette maison qu'elle avait tant de peine à quitter. Vers le soir, elle fit un paquet de quelques pièces de linge, ferma soigneusement la porte et en déposa la clé au creux d'un vieux poirier. Puis les poussins et leur mère, placés dans un panier qu'elle portait au bras, elle descendit le chemin pierreux qui menait chez la mère Marienne en tirant après elle sa chèvre noire qui refusait d'avancer et faisait mille cabrioles pour tâcher d'échapper à la corde qui lui enserrait le cou. La mère Marienne fit entendre des cris et des menaces contre ceux qui séparaient les enfants de leurs parents. Et sans un mot de consolation à la fillette, sans même prendre garde à ses larmes, elle mit les poussins en sûreté et attacha la chèvre noire à un piquet. Et tout aussitôt, Valserine gagna la route pour prendre le courrier de Saint-Claude, ainsi qu'elle l'avait promis aux gendarmes de Sept-Moncelles.